Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle bulle d'histoire sur Art District Radio. Je suis vraiment très heureux de recevoir un auteur et une autrice, ou une autrice et un auteur, ça dépend dans quel sens on lit le bouquin. Je suis avec Aline Farès, on dit comme ça ?
Oui, c'est Aline ça. Farès.
Et Jérémy Van Hout, donc vous êtes en Belgique, si j'ai bien compris votre numéro de téléphone. Vous avez écrit un album absolument extraordinaire, au sens propre du terme, qui s'appelle « La machine à détruire. Pourquoi faut-il en finir avec la finance ?» Alors, dans les bulles d'histoire, on ne parle pas beaucoup de finance. On avait rencontré il y a deux ou trois ans Xavier Harel, qui avait écrit un album, là aussi, vraiment fantastique, sur les biens mal acquis. Donc, une autre fois dont on va parler. Mais là, on va parler de banques, de finances, de taux d'intérêt, d'obligations, d'actions, enfin de tout un tas de choses, de mots, de notions qu'a priori on comprend, mais en fait on comprend très très vite qu'on ne les comprend pas. Donc c'est un album qui est à la fois une biographie, surtout de vous Aline, c'est aussi un album d'analyse des crises financières, des crises bancaires, du système qui nous entoure et dont on ne peut pas se passer a priori. Mais c'est aussi un album qui, à la fin, propose quelques solutions. Et moi, j'aurais plein de questions à vous poser, notamment sur est-ce que l'être humain est prêt à trouver des solutions intelligentes pour se sortir de là ? Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire. Bonjour à tous les deux. Et premièrement, donc, c'est un album qui est une biographie ou une autobiographie de vous, Aline. Est-ce que vous pouvez me dire d'où vous venez et pourquoi vous avez commencé à écrire ce genre de choses et comment vous avez embarqué Jérémy dans cette aventure ?
C'est une grande question. En gros, moi, j'ai fait un parcours assez classique de écolière qui réussit bien en France. Mes parents qui m'ont suggéré d'aller faire une école de commerce, puisque c'est ce qu'on faisait quand on réussissait bien à l'école, visiblement. Je suis rentrée à HEC à Paris. Et puis, en sortant de là, j'ai rejoint mon compagnon de l'époque qui vivait en Lorraine. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à chercher du travail au Luxembourg et que j'ai atterri un peu par hasard dans une banque. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière en banque. Donc, j'ai travaillé pendant presque 10 années dans une banque qui s'appelait Dexia. Les 5 premières années au Luxembourg et puis après à Bruxelles. En Belgique. Et en fait, quand je suis arrivée à Bruxelles, c'était 2007. Un an après, il y a eu la crise financière. Et ça faisait déjà quelques années que je me posais pas mal de questions sur à quoi je contribuais, ce que j'étais en train de faire, etc. Et quand il y a eu la crise financière, c'est des moments un peu de révélation comme ça, où on voit la réalité des choses au moment de leur dysfonctionnement, comme pendant le Covid, où on a compris à quel point... les systèmes logistiques internationaux étaient importants et toutes nos dépendances. Ben là, avec cette crise financière, on comprenait comment... en tout cas, le système financier et bancaire était quand même largement mis à nu. Et du coup, à partir de 2008, 2007-2008, j'ai vraiment ressenti le besoin urgent de quitter la banque, ce que je n'ai pas fait tout de suite, pour des raisons de peur, bref, de manque d'imagination, d'idées, je ne sais pas, parce que j'ai eu aussi une fille, peut-être. Et puis, pendant mon congé mat, ce que je raconte dans la bande dessinée, je suis partie pour rejoindre le milieu associatif, puis militant. Et en fait, sur ce parcours-là, après plus de 4 années passées dans une ONG qui s'appelle Finance Watch, je sentais que j'avais des trucs à raconter. J'ai décidé de suivre une formation pour créer une conférence gesticulée. Une conférence gesticulée, c'est un outil d'éducation populaire où une personne raconte à la première personne des bouts de sa vie, c'est ce qu'on appelle des savoirs chauds, des expériences singulières, quoi, mais qui lui ont fait comprendre des choses, et puis qui mélange ça avec des savoirs froids, qu'on trouve plutôt dans les bouquins. Et en fait, dans cette formation à la conférence gesticulée, il y avait un certain Jérémy Vanhout. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés quand même. Et donc je suis sortie avec ma conférence gesticulée qui a été beaucoup, qui s'appelle Chronique d'une ex-banquière, qui a été pas mal demandée, notamment dans les réseaux militants sur les sujets économiques, financiers, comme ATTAC, le CADTM, mais aussi dans des centres culturels et des trucs comme ça. Puis à un moment, assez vite, en fait, je me suis dit, et c'est des amis qui m'ont suggéré cette idée, que ce serait bien de trouver une autre forme à ce propos pour le jour où j'en aurais marre de raconter toujours la même histoire sur scène, pour multiplier aussi la diffusion de ce message-là. Et puis voilà, et donc c'est là que l'idée de la bande dessinée est née, et c'est là que je me suis rappelée que mes mazettes, je connais un dessinateur vachement bien. C'était genre 1 ou 2 ans après qu'on ait terminé la formation conférence gesticulée. L'idée de départ, c'était ce que j'ai proposé à Jérémy, c'était est-ce que tu n'as pas envie qu'on tente une adaptation de la conférence gesticulée chronique d'une ex-banquière en bande dessinée. Voilà, ça a été le point de départ.
Et vous, Jérémy, vous n'étiez pas banquier avant ?
Absolument pas, absolument pas. Je suis illustrateur. Illustrateur, donc moi j'ai fait la cambre en dessin animé au départ, et puis après de longues années à me chercher à faire effectivement de l'illustration comme boulot, j'ai fait aussi de l'agriculture urbaine, donc on a monté un projet d'agriculture urbaine ici sur Bruxelles. Et ayant vu la conférence d'Aline, moi, ce qui m'avait marqué, c'était, je me suis dit en sortant de la conférence, je me suis dit, je me sens plus intelligent, j'ai compris plein de trucs. Et c'était vraiment une des conférences qui m'avait le plus marqué. J'avais compris des choses et j'avais compris l'importance de quelque chose auquel je n'accordais pas beaucoup d'importance, en fait. Comme beaucoup de gens, je pense, où je me disais juste, il y a des gens intelligents qui s'en occupent et c'est bien comme ça. Et par contre, on était sur... Et ça a fait pas mal d'écho, en fait, pour moi à des inégalités et des choses qui moi, me chipotaient dans tout ce qui était plutôt agricole. Des inégalités sur la base de rémunération. Pourquoi en fait un petit agriculteur n'arrive pas alors que des multinationales s'en sortent hyper bien. Enfin voilà, en fait avec tout ce que Aline disait dans sa conférence, je me suis vraiment dit ah tiens, ça fait des liens, c'est hyper intelligent. J'avais jamais pensé que c'était un point de vue à prendre. Et donc quand elle m'a proposé de faire ça, moi ça m'a beaucoup parlé parce qu'en fait, au départ, justement, je m'étais dit, je suis plus intelligent en sortant de sa conférence. Et 2 semaines après, en fait, j'avais tout oublié. En fait. Et pourtant, je l'ai vu quelques fois. Hein. Donc, en fait, à chaque fois, je me disais, waouh, j'ai compris. Et puis, on me demandait de réexpliquer. Je me disais, ah non, en fait, j'ai rien capté. Et donc, en fait, quand elle m'a proposé le fait d'en faire une BD qui était aussi, en plus, c'est un peu un rêve de gosse pour moi de faire une BD, ça alliait ce que. Des réflexions, plus le rêve d'enfant, plus le fait de me dire, tiens, mais si on le fiche dans un manuel, en tout cas dans un livre, n'importe qui peut y retourner à n'importe quel moment. Et donc, c'est un savoir qu'on peut s'approprier sans avoir Aline spécialement à côté de soi. Et donc, en fait, ça m'a plu, ça m'a vraiment parlé, quoi.
En fait, en vous écoutant, parce qu'en ce moment, il y a les élections européennes, donc on reçoit tous les programmes, on reçoit tout ça. Enfin, en France, on le reçoit par la poste, hein, puis on peut les écouter un peu partout. Il y a certains candidats qui disent à peu près la même chose que vous, très peu, mais en tout cas, en partie. Bon, en fait, je ne les ai jamais écoutés, je n'arrive pas à les écouter, ça ne m'intéresse pas. Or, que ce soit la conférence gesticulée ou la bande dessinée, on a l'impression que l'art permet... d'aller encore plus profond et d'une façon un peu plus intelligente, je ne sais pas, mais en tout cas plus incarnée. On s'intéresse plus à ça quand on prend des artistes pour le faire, en tout cas.
Ouais, c'est un des partis pris de la conférence gesticulée, en tout cas, le point de départ de toute l'histoire. C'est-à-dire, enfin, moi en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti quand on travaillait sur. Parce que les conférences gesticulées, ça se travaille en groupe, mais chacun, chacune a son projet de conférence gesticulée. Et moi, je donnais des conférences régulièrement dans le cadre de mon travail sur le fonctionnement du système bancaire et financier. Mais je me retrouvais devant un PowerPoint, une assemblée de gens un peu techniciens, et je leur expliquais des trucs, quoi. Et c'est vrai que j'ai senti vraiment très fort la différence entre une incarnation, en fait, racontée à la première personne qui crée une forme de connivence avec les gens qui écoutent et pareil avec les gens qui lisent la bande dessinée, qui fait qu'il y a une implication plus forte. Par exemple, il y a un passage dans la BD qu'on avait travaillé, qui, enfin, moi j'aime bien parce que j'aime bien les têtes que Jérémy m'a fait, mais... quand le personnage se pose plein de questions sur « il faut partir de la banque, oui, mais merde, je vais me retrouver au chômage, c'est l'angoisse, comment je vais faire quoi ?» Et gnagnani, et à part la thune, qu'est-ce que... Et bah ouais, mais tu m'étonnes, à part la thune, c'est quand même important. Enfin bon, bref, toutes ces réflexions-là, en fait, je pense que beaucoup de gens qui bossent dans des grosses boîtes et dans des boulots de merde se les posent régulièrement. Et donc, c'est des occasions de faire des parallèles, enfin en tout cas de créer de la connivence et de l'empathie aussi pour les personnes qui écoutent ou qui lisent, quoi. Et je trouve que ça, enfin je sais pas, ça nous met plus en connexion ensemble sur, en fait on est en train de vivre et de subir un même truc. Et c'est bien qu'on essaie de le comprendre ensemble, quoi.
Et, enfin, surtout, on subit le même truc, et quand on se penche sur ce que vous racontez, quand on voit ça en détail, les conséquences sur nos vies quotidiennes sont absolument colossales. Voilà, c'est ça aussi que vous expliquez vraiment très bien tous les deux, et je dirais qu'intellectuellement, on peut s'en douter, intellectuellement, on peut le savoir, mais quand on a décrypté les mécanismes, ça devient franchement terrifiant. Donc ça, c'est le côté un peu sombre de cette affaire. Mais il y a plein de choses dans cet album, mais pour que les gens comprennent bien comment il est construit, il y a l'histoire de la crise bancaire de 2008. Donc là aussi, est-ce qu'une crise bancaire, c'est une crise économique ? Est-ce que c'est la même chose ? Voilà, ça, c'est des choses qui sont, je pense, compliquées à expliquer. Je pense que ce n'est pas la même chose, mais vous allez m'en parler. Est-ce que vous pouvez nous dire comment une crise bancaire se démarre ? Comment ça commence ? Parce que je dois dire que c'est totalement mystérieux. Bah, moi, j'ai lu, donc je sais, mais je trouve que c'est une façon d'entrer dans votre livre, parce que c'est le cœur du livre, et c'est quelque chose dont on a tous entendu parler, dans les médias, dans les journaux, à la télé, c'était la crise bancaire de 2008. Mais franchement, je pense que le nombre de personnes qui savent comment elle est arrivée et quelles en ont été les conséquences, pardon, il y en a peut-être 100 dans le monde, quoi. Enfin, j'exagère, hein, qui ont vraiment compris.
Ouais.
Un peu plus, allez, 200.
Quelques milliers.
Et en plus, c'est bien raconté, parce que c'est aussi une sorte de polar. Il y a du suspense, même si on sait comment ça se finit, mais à la fois par le dessin et par le récit, voilà, il y a des personnages, il y a du suspense, il y a des salauds, il y a des gentils, il y a des gens qui sont arnaqués, il y a des arnaqueurs. Voilà, il y a tout un univers assez, assez réjouissant à lire qui crée cette crise.
Ouais, ça faudra laisser Jérémy raconter comment il s'est emparé de tout ça pour faire des trucs.
C'est prévu, enfin, c'est prévu.
Une histoire vraiment marrante, quoi. Une crise bancaire, une crise financière, en gros, c'est le moment où des croyances deviennent caduques. Ou des croyances qui étaient généralisées au sein du système bancaire et financier, bah finalement sont mises à nu, c'est-à-dire que ce ne sont plus que des croyances. Et les premiers qui se retournent et qui disent « Oh merde, on croyait que ça valait de l'argent, mais en fait ça ne vaut plus rien », commencent à vendre et à se retirer. Et puis à partir de là, c'est la course à l'échalote, et puis tout le monde vend, et puis le dernier, bah, c'est le pigeon de l'affaire, et il se retrouve avec rien du tout.
Comment on peut d'un seul coup se dire ce que j'ai qui vaut 100, une heure après ça vaut 20 ou 0 ? Comment c'est possible ? On est dans quelque chose d'irrationnel ?
On est dans ce qu'on appelle de la spéculation, c'est-à-dire qu'on peut prendre un parallèle avec un terrain. à proximité d'une ville, par exemple. Disons que quelqu'un va acheter ce terrain à un prix bas parce que sur ce terrain n'est autorisée qu'une production agricole. Et puis, à un moment donné, des gens commencent à anticiper que ce terrain va valoir plus parce que bientôt, il va y avoir une autorisation pour construire un bâtiment dessus. Ou en tout cas, que ce sera envisageable de construire un bâtiment dessus. Les plus malins vont acheter le terrain à la personne qui a un terrain agricole sans expliquer que c'est potentiellement un terrain qui va valoir beaucoup plus, achète le terrain au prix d'un terrain agricole et puis le revende une fois que le terrain a obtenu une... Bon. Le terrain, c'est toujours le même. Hein. C'est juste que l'information par rapport à son usage change dans le temps. Et en fait, la spéculation, ça fonctionne comme ça. C'est à un moment donné, on dit bah, tel truc, ça vaut cher. Il y a des perspectives de rentabilité là-dessus. Oui, ça vaut cher parce qu'il y a des perspectives de rentabilité. C'est-à-dire, ça vaut cher parce qu'on pense qu'on va pouvoir le revendre plus cher. Et puis, en fait, des circonstances, alors qui sont diverses, qui peuvent tenir à des événements qu'on ne maîtrise pas trop ou à des événements qui sont fabriqués, comme dans la crise de 2008, bah, des circonstances font que la croyance, en fait, s'avère être infondée. Et donc, la valeur qu'on avait mise dans quelque chose disparaît. L'histoire de la crise des subprimes de 2008, elle est assez impressionnante. On cite dans la BD plusieurs films pour... qui explique très très bien, parce que nous on n'explique pas vraiment les bases de la crise de 2008, parce que ça a déjà été beaucoup fait. Mais en gros, le principe c'est que des banques ont prêté à des gens qui n'avaient pas accès au crédit bancaire jusque-là, des personnes qui en général étaient des personnes discriminées sur le marché de l'emploi, par des pratiques racistes sur le marché de l'emploi, discriminées sur le marché du logement, qui donc étaient en moyenne plutôt pauvres, à qui des banques ont commencé à dire ben, « En fait, c'est cool, vous allez pouvoir accéder maintenant au crédit immobilier et accéder au rêve américain et vous acheter une maison. » Et si jamais, dans quelques années, vous ne gagnez pas plus d'argent, ben, vous inquiétez pas, l'immobilier, ça monte toujours, vous pourrez revendre votre argent et puis vous nous remboursez avec cet argent. Et le truc, c'est qu'ils ont vendu ces crédits-là en très grande quantité sur une très courte période, c'était aux États-Unis, du montage qui avait été créé, c'était que les banques ou des agents qui travaillaient pour elles vendaient ces crédits à ces personnes précaires et ensuite, elles-mêmes revendaient ces crédits sur les marchés financiers sous forme de parts. Et donc, à la fin, une fois qu'au bout de quelques années, les gens n'ont plus réussi à rembourser ces crédits, eh bien, ce n'est pas les banques qui les avaient vendus qui ont perdu de l'argent, c'est tous les couillons de la terre entière, les grosses banques notamment, qui avaient acheté les titres financiers faits à partir de ces crédits, qui ont pris la perte. Et c'est là qu'on a eu un effet qu'on appelle de crise systémique, parce que toutes les grandes banques étaient exposées à ces crédits. Voilà. Et en fait, comme toutes les personnes qui avaient acheté ces crédits-là avaient acheté dans des quartiers un peu similaires, ben, leur maison n'était plus vendable, hein, parce que quand vous avez la moitié des baraques d'un quartier qui sont à vendre, en fait, il n'y a personne qui veut les acheter à leur prix de base. Quoi. Voilà, donc ça, c'est la façon dont a été fabriquée la crise de 2008. Mais c'est globalement, dans l'histoire de la crise de 2008, les banques qui ont acheté les titres financiers, elles croyaient que les banques américaines qui leur vendaient ces titres étaient des banques sérieuses, c'était des banques de référence, qui savaient ce qu'elles faisaient. Et puis, tout le monde a foncé dedans, quoi.
Mais ce qui est vraiment terrifiant, là, au sens propre, c'est que tous ces gens qui savent, ce que j'ai compris, vous allez me dire si j'ai tout compris, c'est que toutes ces tractations financières, elles sont garanties par le capital des banques. Et à un moment donné, ce capital n'est plus suffisant pour rembourser toutes les dettes. Et donc, c'est à ce moment-là que tout s'écroule. Donc, ça veut dire que, je pense que ça continue d'ailleurs, que toutes ces banques continuent à jouer finalement avec l'argent des gens. si c'est bien la conclusion qu'on peut tirer de cette affaire et que vous expliquez vraiment très bien.
En fait, le truc qu'on essaye de mettre en exergue dans la bande dessinée, c'est vraiment le rôle central des banques sur les marchés financiers. Il y a cette représentation hein, où on voit une grande tour qui représente la banque, grande banque internationale, banque d'affaires, parce que ça, il faut le dire, on se focalise vraiment sur les grandes banques internationales en France, comme BNP Paribas, Crédit Agricole de Suède, ce genre de banques. Ben, ces grandes banques sont au centre des marchés financiers. Et quand elles tremblent, il y a tout qui tremble, quoi. Et le truc, c'est que ces grandes banques sont ce que certains appellent des colosses au pied d'argile, puisque en effet, elles ont assez peu de capital, sauf que quand elles perdent de l'argent, c'est dans ce capital qu'on prend. Et si elles perdent un peu trop d'argent, eh bien, il n'y a plus assez de capital et elles font faillite. Et si elles font faillite, alors on n'a plus accès à nos comptes, on ne peut plus opérer, et c'est là qu'on est coincé, quoi.
Mais est-ce que les banques, c'est vraiment quelque chose de diabolique? Parce qu'il y a aussi une série qui est passée sur Arte en France, sur le rapport des banques avec les différentes mafias, donc les mafias d'Europe, mais aussi en Chine, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Et en fait, toutes ces banques, qu'elles soient très connues ou qu'elles soient un peu crapuleuses, comme il y en a quand même dans ces pays-là, c'est aussi diabolique que ça, ou bien il y a quand même pas mal de vertus aux banques?
Bah en fait, toutes les très grandes banques, elles sont impliquées dans des histoires foireuses. Il y a des histoires en justice parmi toutes les grandes banques. Déjà, c'est des géants internationaux, donc les patrons, ils ne peuvent pas tout contrôler. Mais c'est surtout, parce que quand vous avez un cadre qui est trop permissif, en fait, elles jouent avec les marges tout le temps. Et il y a toujours moyen de s'échapper quelque part, quoi. Et donc, cette forme de porosité fait que de toute façon, les grandes banques, je ne parle pas des moyennes et des petites, elles n'en ont pas les moyens en fait. Elles trichent énormément, c'est assez consultantiel en fait, à la fois à leur taille, leur objet, grandir tout le temps et faire un maximum de profit, et aussi au cadre réglementaire dans lequel elles opèrent. Après, ça ne veut pas dire qu'effectivement l'activité bancaire est crapuleuse en soi. C'est une forme d'organisation de la société et de l'économie qui s'est imposée à nous au fil du temps et qui peut être fonctionnelle. En tout cas, ce qu'on essaye d'amener dans la BD, même si ce n'est pas là-dessus qu'on met le plus la focale, mais c'est qu'il y a des fonctions de base qui sont essentielles et qui n'ont rien à faire dans le giron privé. C'est un peu comme les rails de chemin de fer, quoi, les moyens de paiement par exemple, les cartes, les distributeurs de billets, avoir accès à son compte. Pourquoi il doit y avoir une entreprise privée qui fait de la thune là-dessus? Tout le monde en a besoin.
Oui, enfin, c'est pas le cœur de l'album, mais on voit que tout est interconnecté et que nos petites cartes bancaires, derrière, il y a quelque chose de tellement plus grand, de tellement plus massif, de tellement plus systémique. Alors, il faut parler un peu du dessin, parce que pour expliquer tout ça, il fallait un dessinateur. Comment, Jérémy, vous avez... imaginez comment vous êtes emparé à la fois des concepts économiques qui sont quand même très complexes, faut pas se cacher, c'est vraiment très complexe, et en même temps vous avez mis plein de personnages. Donc comme je disais, il y a des salauds, des gentils, des arnaqués, des arnaqueurs, il y a Aline qui est toujours dans les parages en train de raconter et puis de bondir de toit en toit ou de bureau en bureau. Comment vous avez imaginé de travailler avec elle sur à la fois les personnages et les concepts?
Les concepts, ça a été le plus difficile. La facilité, c'est que vu qu'on partait déjà et ça s'était défini déjà dans la conférence de son histoire, donc c'était sûr que en fait j'allais la représenter comme personnage qu'on suit vraiment sur toute la BD, ce qui facilitait déjà le lien entre les différentes séquences. Et puis pour l'attachement à un personnage de base, je trouvais ça plus sympa. Et puis je me suis bien marré à dessiner Aline, même si ça n'a pas été simple. J'ai mis quand même pas mal de temps à arriver à quelque chose qui me plaisait en tout cas. Et puis, moi, c'est clair que ça a été un de mes boulots. Ça a été c'est une histoire qui m'avait marqué. C'était un jour Aline. a voulu m'expliquer justement les marchés financiers. Je pense que sur l'après-midi, on s'est dit « Ok, on va faire déjà le storyboard de tout ça, etc. » Elle a dû me l'expliquer 6 fois. Et à chaque fois, je lui disais « Ok, j'ai rien compris. Recommence. Ok, j'ai rien compris. » Et on l'a fait plusieurs fois jusqu'au moment où elle m'a dit « Ok. » En fait, un peu comme elle vient de le faire avec la terre en vente, elle m'a dit « Ok, regarde, imagine qu'il y a des pommes et des pois. » Et on est parti là-dessus. Et donc, on est parti sur le marché. Et en fait, on a, à force de m'expliquer, je pense, et de moi, en fait, il fallait que j'intègre assez bien les concepts pour pouvoir, un, les dessiner et deux, me les approprier pour vraiment essayer d'amener une simplification tout en ne perdant pas le fond et une forme de complexité quand même. Et donc, en fait, c'est à force de les expliquer. Je crois que c'est aussi pour ça que cette BD a mis autant de temps à être... on a mis 5 ans pour la pondre. Ben c'est qu'en fait, pour m'approprier les concepts, ça a mis énormément de temps, quoi. Et voilà. Après, ben, moi, j'aime quand même bien les BD, donc j'ai eu besoin aussi de simplifier certaines choses. La tronche du banquier qui effectivement représente plutôt le salaud sur toutes nos... Le banquier et les actionnaires, ben... J'ai eu besoin de les simplifier. En fait, si maintenant je ne simplifiais pas les personnages en termes de « Ok, lui, en fait, j'en fais vraiment un salaud. Eux, j'en fais voilà, ceci, etc. Ben, » en fait, j'aurais eu personne à qui se raccrocher. Et donc, ouais. Et puis moi, en tant que… Voilà, je vois derrière vous, vous avez le truc des X-Men. On aime tous s'accrocher à des personnages qu'on suit, comme dans toutes les grandes séries, quoi. Donc voilà, voilà plus ou moins.
Ce que j'ajouterais aussi, c'est que c'est extrêmement drôle. Voilà, on rigole à toutes les pages, on ne s'ennuie jamais, même si c'est des concepts, je répète, pas simples et compliqués, c'est toujours drôle, on a toujours le sourire, il y a toujours des super blagues, les personnages, je disais avant qu'on commence à enregistrer, on a l'impression de temps en temps que vous êtes le fils de Gottlieb, donc voilà, ça fait aussi vraiment partie du charme de cette bande dessinée, c'est qu'on rigole beaucoup.
Merci beaucoup. Je prends ça vraiment comme un super compliment. C'est super cool. Merci. Ben ouais, c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est là aussi où on a travaillé vraiment à deux sur le scénario, je pense. C'est amener un concept, le transformer pour qu'il soit accessible et puis y mettre assez d'humour et de légèreté pour donner envie de continuer. Parce que, effectivement, je me suis quand même vite souvent retrouvé dans des bandes dessinées explicatives où en fait j'ai quand même cette impression d'être vite face à une conférence et pas à quelque chose d'attractif et en fait même la BD peut devenir, je dirais, chiante en gros, ça peut être complètement rébarbatif. Donc, je pense que le médium ne suffit pas à accrocher le lecteur. Il faut y amener, comme dans la conférence gesticulée, quelque chose d'attrayant. Ma partie, c'est effectivement d'amener quelque chose de joyeux ou en tout cas de drôle. En tout cas, c'était le parti pris que j'ai essayé de prendre, qu'on a essayé de prendre pour fluidifier en fait les rouages.
Mais rappelle-toi, il y a eu un moment en fait où... au début, quand c'était dur, les concepts, ouais. T'arrivais pas à être dans la blague et tout ça. Ouais. Et puis, à un moment donné, il y a eu, je sais pas au bout de combien de temps, un an, deux ans, ouais. Je sais pas. Il y a un moment donné où on avait assez parlé de plein de trucs. Tu as quand même regardé pas mal de vidéos, écouté des émissions, machin. On a beaucoup discuté et tout. Et puis, à un moment donné, Jérémy a commencé à prendre des libertés par rapport à... parce que moi, j'écrivais des bouts de texte. Après, il regardait un peu. Et puis ensuite, on faisait le storyboard ensemble. Et puis après, il faisait mise en bulle, machin, nanana. Et en fait, il y a un moment où Jérémy a commencé à reprendre la main sur la construction même du truc et à rajouter des dialogues. Et donc, c'est Jérémy qui s'en vient. Moi, je ne suis pas très drôle. Oh. C'est Jérémy qui vient des blagues. Et franchement, là où je suis hyper contente, c'est qu'il y a quand même un truc qui se balance entre le sujet qui est quand même pour beaucoup de gens très rébarbatif, et le dessin de Jérémy qui est hyper gay, quoi. Enfin, c'est joyeux, c'est puis les blagues, et puis ça se prend pas au sérieux. Enfin, même mon personnage, enfin, c'est pas, ouais, je suis pas en train de faire la maligne, quoi.
Non, vous êtes un peu comme la petite fantomette de l'économie, c'est ça qui est, c'est ça qui est. Qui est... Donc on rigole, mais c'est aussi je trouve une BD qui interroge notre fonction entre guillemets de citoyen, parce que bon là il y a les élections européennes qui arrivent. Comme je disais avant, quand on il faudrait lire cette bande dessinée avant d'aller voter, ça serait pas mal, ça serait intelligent et on pourrait faire des progrès dans les votes qu'on émet. Donc ça, c'est une réflexion à la fois sur le rôle de l'État, parce que l'État tel que vous le décrivez, en fait, c'est un pompier qui sauve surtout les banquiers et pas tellement les citoyens. Bon, je raccourcis vraiment beaucoup, hein, mais c'est une des conséquences du sauvetage des banques par l'État. Mais c'est aussi, ça interroge aussi le citoyen qu'on est et notre désir, notre volonté de changer, notre façon de rêver. Est-ce qu'on rêve de s'enrichir ou est-ce qu'on rêve d'être plus solidaire? J'écoutais il n'y a pas longtemps un super documentaire sur Margaret Thatcher et sur l'Angleterre de Thatcher. Et un syndicaliste, un grand syndicaliste anglais, disait « Margaret Thatcher, elle a été élue démocratiquement 3 fois de suite. Or, elle a fait beaucoup de mal à l'Angleterre, elle a fait beaucoup de mal aux ouvriers, aux plus pauvres. » Et il disait « Mais elle a quand même été régulièrement élue démocratiquement 3 fois de suite. » Et il analysait ça en disant qu'elle avait réussi à mettre dans la tête des gens un rêve qui est de s'enrichir, de pouvoir s'enrichir sans cesse, et qu'à la limite, si on veut, on peut, et que si on n'y arrive pas, ben, c'est qu'on est vraiment un loser, mais en tout cas, on peut s'enrichir sans cesse. Et votre bande dessinée, moi, elle m'a fait beaucoup penser à ça, parce que ça fait vraiment... on se pose des questions sur soi, sur ce qu'on fait, sur nos convictions, sur les actions qu'on peut avoir à droite et à gauche. C'est assez dérangeant comme bande dessinée. C'est peut-être fait pour, cela dit.
Chouette. Oui, c'est quand même, en tout cas, pour réfléchir et pour amener de la discussion et d'autres points de vue. Mais je pense qu'effectivement, moi, c'était aussi un but quand Aline m'a proposé ça, c'est d'amener à une réflexion. À un moment dans la BD, on parle des règles du jeu. Et en fait, en disant qu'en fait, la finance, ou en tout cas le modèle capitaliste, en fait, c'est des règles du jeu qui ont été édictées, auxquelles on joue tous, parce qu'en fait, on se dit que c'est les règles qui sont là et que c'est les règles auxquelles il faut jouer, et parce qu'en fait, je pense que la légende, la commune est si on rentre bien dedans, on va réussir à s'enrichir de la même façon qu'on se dit la grande croyance qui est... c'était quoi l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, par exemple, ou quand on veut, on peut, ou tout ça, en fait, c'est des trucs qui permettent d'apporter un socle à une légende qui, en fait, c'est juste une histoire qu'on se raconte entre nous, et donc on se dit, bah, comme l'argent d'ailleurs, en fait, c'est parce qu'on est tous d'accord de gérer avec cet argent-là qu'on continue à faire marcher le truc, parce qu'on a une croyance que dans ce jeu-là, on va pouvoir s'en sortir. Mais vu que ce n'est qu'un point de vue, je pense que c'était un des trucs qui est important dans le fait de faire cette BD aussi, c'est de juste amener, tiens, mais on pourrait peut-être voir les choses autrement. Est-ce que ce modèle qu'on a rend réellement plus heureux et plus égalitaire ou pas? Et si pas, pourquoi est-ce qu'on le garde, en fait? À part le fait que c'est une légende ou une croyance ou une religion, pourquoi est-ce qu'on garde ça si, en fait, ça ne rend pas plus heureux? Est-ce qu'on ne pourrait pas créer autre chose? Est-ce qu'on ne pourrait pas être créatifs tous ensemble? Ce serait tellement plus chouette.
Voilà. Ouais, ce serait tellement plus chouette, mais compliqué. Parce que comment alors, vous proposez plein de... Pas plein de solutions. Ça, je reviens sur ce que je dis, mais en tout cas, une façon de réfléchir à des solutions... Ouais. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir la fin du livre. Vous n'êtes pas des chamans ou des magiciens, mais en tout cas, vous essayez d'éclairer les gens. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les gens se mettent à alors pas bien penser, parce que je ne sais pas ce que c'est bien penser, mais en tout cas, à réfléchir correctement?
Bah, en tout cas, ce sur quoi on a vraiment eu envie d'insister, c'est de défaire, bah, justement, pour revenir au Margaret Thatcher, le il n'y a pas d'alternative, là, there is no alternative. C'est de dire, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont à la tête des grandes banques, des grandes entreprises, qui ont de la place dans les médias, etc., qui répètent toujours la même chose, en fait, comme s'il n'y avait pas d'autre système que celui dans lequel on vit. Et il nous semble, et c'est quelque chose sur lequel on a insisté, qu'une fois qu'on met ces affirmations et ces personnages de côté, on peut commencer à voir autre chose. C'est comme si notre horizon était bouché, quoi. Et comme si, en fait, à force, ça fait plein de bruit, en fait, tous leurs discours, et on ne peut pas y entendre autre chose. Enfin, il y a vraiment quelque chose de cette... C'est la première proposition, je crois, c'est de dire, OK, on les met de côté avec leurs discours, leurs idées, leur vision du monde, pour laquelle ils ont beaucoup de moyens, donc elle peut se réaliser, en fait. Et on commence à imaginer d'autres trucs. Je crois que la deuxième chose qu'on propose, c'est de regarder non plus les choses à partir de soi, mais à partir beaucoup plus largement, quels sont les impacts d'un certain niveau de vie, par exemple. Enfin, on n'est pas revenu jusque-là, mais c'est un peu changer la narration autour de le fantasme des 30 Glorieuses, par exemple. 30 Glorieuses, pour qui, je vous le demande, dans une période hyper coloniale et tout, enfin, c'était pas la gloire partout, quoi. Et donc, c'est raconter qu'encore aujourd'hui, le fantasme d'une vie confortable, un certain standard de vie, ben, en fait, il se fait au détriment de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens à travers le monde, même beaucoup de gens à côté de chez nous. Et il se fait aussi au détriment de l'environnement et la terre sur laquelle nous vivons. Et je crois que c'est aussi une autre chose qu'on a envie d'amener avec la bande dessinée. C'est que, enfin, moi, fondamentalement, je ne comprends pas comment on peut être écolo sans être anticapitaliste. C'est un truc qui me dépasse. Mais à minima, voir que les solutions... Pour les personnes qui se sentent concernées, il y en a de plus en plus, et qui ont des peurs bien fondées sur ce que nous réserve l'avenir, sur les grands bouleversements qu'on vit là, ben, en fait, voir que les solutions qui nous sont vendues dans des pays comme la France, la Belgique, en Europe en général, en Occident en général, ben, en fait, elles continuent de se déployer au détriment de pans entiers de population et de toute une partie de la planète, et nous reviennent dans la gueule sous forme de dérèglements climatiques, de perte de ressources, de tout un tas de choses, quoi. Et quand on a écrit la bande dessinée, on n'était pas encore dans un contexte de guerre aussi présent. Il y avait des guerres, mais ce n'était pas aussi présent, parce qu'entre-temps, il y a eu l'Ukraine et puis la Palestine. Mais on aurait pu parler de la guerre aussi, en fait. Parce qu'il y a une économie de la guerre, il y a un business de la guerre. Donc, en gros, pardon, je suis un peu partie dans toutes les directions, mais...
Non.
C'est vraiment d'amener les personnes qui nous lisent à avoir un regard critique sur les soi-disant solutions qui nous sont proposées et qu'est-ce qu'elles alimentent, et aussi s'autoriser à regarder ailleurs que ce qu'on nous répète tout le temps. Et on termine sur des choses qui se passent vraiment. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent vraiment, mais qui sont invisibles si on ne fait pas attention, quoi. C'est un peu comme... comme les petites fleurs qui se cachent dans les herbes, là, comme ça, on ne les voit pas du premier coup d'œil, mais si on regarde de près l'herbe, ben on les voit, quoi. Mais c'est un peu ça, on ne voit que le gros bazar au milieu, parce que c'est ce que les médias et tous ceux qui déblatèrent nous montrent, mais il y a beaucoup de gens qui se battent, il y a beaucoup de gens qui inventent d'autres façons, il y a beaucoup de gens qui tentent de faire perdurer des façons d'exister, de s'organiser et de faire société. Contre des avancées de grosses industries, il y a plein de choses en fait. Voilà, c'est un peu, ouais, c'est comme disait Jérémy, c'est bon, on invite les gens à changer un peu leur regard, quoi.
Donc, on va s'arrêter là en fait, parce qu'on est, moi j'ai une grosse demi-heure, on a dépassé, mais on va tout passer quand même, parce qu'on peut pas, je peux pas vous couper, je peux pas résister à ne pas vous entendre. Donc je vous remercie beaucoup, je redonne toutes les informations. Le titre de ce livre fantastique, c'est « La machine à détruire, pourquoi faut-il en finir avec la finance ?» Aline Farès, vous avez écrit le scénario, plus vous avez bien gesticulé pour animer tout ça. Et Jérémy Van Hout, vous avez dessiné magistralement cette aventure. Ça fait 180 pages et c'est 23 euros. Et 23 euros, c'est pas cher pour avoir un bulletin de vote utile. Je vous remercie et je vous dis à bientôt surtout.
Merci beaucoup. À vous, c'était super.
Merci
bien.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh!
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmh.